Le journal Yves Decamp, bonsoir.
Bonsoir. Alerte rouge aux inondations dans le Var et les Alpes-Maritimes où les rivières sont gonflées par les pluies. Des pluies qui devraient s'intensifier encore dans la soirée. Des centaines de personnes ont été évacuées à titre préventif. D'autres ont dû être secourues. De nombreuses routes sont coupées. La circulation des TER fortement perturbée. On fait le point dans un instant. Des milliers de manifestants, surtout des manifestantes, à travers la France pour la marche contre les violences faites aux femmes. Le cabinet indépendant Occurrence a compté 49 000 personnes à Paris où le collectif Nous toutes en revendique plus du double. C'est quoi qu'il en soit un grand succès à deux jours des conclusions du Grenelle des violences conjugales. Pour la mise en place d'une consigne des bouteilles plastiques, au retour d'une mission sur les fleuves d'Europe contaminés par les microplastiques, les scientifiques de la Fondation Tara et les ONG appellent le gouvernement à rester ferme sur son projet. Seul moyen pour eux de limiter au maximum les déchets. Dans ce journal également, des élus locaux qui se forment à la détection des citoyens radicalisés. Et puis comment attirer les femmes dans les métiers du numérique? C'est ce que nous expliquera Christine Siméon dans Sa vie connectée.
France Inter.
Le Var et les Alpes-Maritimes en alerte rouge aux pluies et inondations. Partout ailleurs, la situation s'améliore. Les décrues sont maintenant engagées en Lozère et dans le Gard, où des évacuations préventives avaient été ordonnées. Mais c'est difficile ce soir dans le Var, où plusieurs centaines de personnes ont été évacuées, à Hyères et Fréjus notamment. Plus de 1500 foyers sont encore privés d'électricité dans le département, où de nombreuses routes sont coupées, la circulation des TER perturbée. Un septuagénaire est toujours porté disparu à Saint-Antonin-du-Var, où vous vous trouvez, Bruno Blanza, un peu bloqué d'ailleurs vous-même par ces intempéries.
Oui, c'est vrai que cette petite commune hein, du centre-Var est difficilement accessible depuis en gros le milieu de l'après-midi. Yves, c'est vrai que ce sont des petites routes hein, qui permettent d'accéder à cette commune, mais même les départementales sont sous l'eau. Je discutais avec des gendarmes il y a quelques minutes de cela. Ils m'expliquaient, hein, c'est pour vous donner un exemple, que pour aller vers l'Orgue, la commune voisine, la commune la plus importante à 4 km, c'était probablement bon, notamment si on conduisait un 4x4, mais qu'il n'était pas certain de pouvoir aller jusqu'à Draguignan, un petit peu plus loin, à une vingtaine de kilomètres. Des routes coupées, comme ça, on en comptait des dizaines dans le Var. Ce matin, c'était vraiment des arbres qui étaient couchés sur les chaussées, mais là, c'est l'eau qui pose véritablement problème. Il y a des routes complètement inondées par endroits, et donc très dangereuses. Ce matin, en venant, j'ai même dû passer sur beaucoup de cailloux sur la chaussée, et il pleut toujours ici, même si c'est un petit peu moins présent donc dans l'après-midi. Et vous l'avez dit, la situation ne devrait pas s'améliorer car le département du Var a été placé en alerte rouge.
Bruno Blanza dans le Var. La situation est à peu près semblable dans les Alpes-Maritimes où de nombreuses communes, dont la ville de Nice, ont activé les sirènes cet après-midi pour inciter les gens à rester chez eux. Partout, les automobilistes sont invités à respecter scrupuleusement les signalisations indiquant une route barrée. Le préfet des Alpes-Maritimes, Bernard Gonzalez, a déclenché le plan hors sec. Il était il y a quelques instants l'invité de France Bleu Azur.
Nous n'avions pas eu de rouge dans ce département depuis de nombreuses années. Donc il convient vraiment d'adopter des comportements prudents, de ne plus toucher aux voitures, de limiter l'utilisation des véhicules automobiles, hein, puisque dans le passé, et quand il y a eu des drames, ils étaient essentiellement liés à l'utilisation de l'automobile. Donc ceux qui n'ont pas besoin de sortir ne sortent pas, ceux qui peuvent rester confinés le restent. Quant à ceux qui sont déjà dehors, il est important qu'ils puissent rejoindre leur domicile eh bien, dans des conditions les plus rapides. Et je supplie les uns les autres de rester raisonnables. Je crois que pour ce soir, il ne faut pas penser loisirs, il ne faut pas penser restaurant, il ne faut pas penser cinéma. Hein, il faut penser à rester chez soi, chez les amis où on est, mais ne pas venir compliquer la tâche des services de secours. Et ça va passer d'ouest en est.
Hein, Monsieur
je tiens
le préfet.
À le dire. Cette alerte météo s'adresse à l'ensemble du département.
Voilà, le préfet des Alpes-Maritimes pour information. La 8 est fermée entre Antibes et Villeneuve-Loubet. La circulation des trains interrompue entre Toulon et Nice. Le trafic, en revanche, a repris en partie à l'aéroport de Nice. Une situation qui pourrait encore s'aggraver dans la soirée et dans la nuit. Météo France ne prévoit pas d'amélioration avant demain à la mi-journée. Le bulletin météo à la fin de ce journal.
France Inter. Yves Decamp.
Dans 32 féminicides, ce sera Noël. Terrible slogan aperçu cet après-midi sur une banderole de la marche parisienne contre les violences faites aux femmes. 49 000 personnes, selon le comptage indépendant du cabinet Occurrence, mandaté notamment par France Inter. Des manifestantes, pour la plupart, qui sont venues dire stop aux agressions ou harcèlements de toutes sortes et en priorité aux féminicides qui se comptent par dizaines chaque année. 121 victimes ont été recensées l'année dernière. Elles seraient au moins 116 depuis le début de cette année. Beaucoup plus, si l'on en croit les associations organisatrices de ces marches pour les femmes, à Paris comme en région. À Paris, ce sont d'ailleurs les familles des victimes qui avaient pris place en tête du cortège, un cortège qui s'est maintenant dispersé sur la place de la Nation. Béatrice Duguay.
Photo d'un gâchis humain pour ouvrir ce cortège si digne. Photo de Patricia, mère de 3 enfants. Photo de la souriante Delphine ou encore celle de Floria.
C'est ma maman.
Nathalie Robert s'accroche à sa banderole venue de Nîmes pour honorer la mémoire de sa maman, donc tuée par son compagnon en 2003.
C'est vraiment arrivé du jour au lendemain. Ça a été un choc total. Elle voulait le divorce. C'est ça qui a été l'élément déclencheur.
Vous n'avez jamais soupçonné la violence de cet homme ?
Non, pas du tout. Ce n'était pas de la violence physique, c'était de la violence psychologique.
Autre photo, celle de Julie Douib avec sa fleur de tiare dans les cheveux. Elle a été tuée par son mari en mars dernier.
Et depuis elle, il y a eu 107 femmes supplémentaires assassinées. Et donc on est là à la fois pour honorer sa mémoire.
La voix de Florence Jossé se brise, elle craque parce qu'elle pense à son amie tous les jours et aux autres.
C'est 137 familles maintenant ? Il y a toutes celles des années précédentes et 137 familles, autant d'enfants, voire beaucoup plus, que la justice en fait abandonne aussi. Et quand on voit qu'on nous ressort les mêmes projets de loi qui sont censés être déjà en application comme étant les solutions miracles, on a quand même un petit peu l'impression qu'on se moque de nous aussi.
Ces familles et ses proches alternent entre chagrin et colère. Écoutez les femmes, conjure Nathalie Robert, et suivez aussi les familles qui attendent des mesures convaincantes de la part du gouvernement lundi.
Ce soir, le collectif Nous Toutes salue la plus grande marche de l'histoire de France contre les violences sexistes en revendiquant 100 000 manifestants, 150 000 dans toute la France, où des cortèges ont également défilé dans une trentaine de villes. C'est lundi donc que le Grenelle des violences conjugales, convoqué à la fin de l'été, doit présenter ses conclusions. Et pendant ce temps, les Gilets jaunes, direction Valenciennes, ce samedi pour l'acte 54, pour une manifestation pacifique en soutien à Manuel, le manifestant éborgné samedi dernier, place d'Italie à Paris, alors qu'il s'était mis à l'écart des casseurs. Ils sont venus quelques centaines pour dénoncer à ses côtés les violences policières. Manuel, au micro d'Hortense Crépin.
Je suis très ému, limite j'ai envie de pleurer d'un œil, mais je suis très ému quand même, ça fait du bien. Parce qu'on voit que la famille elle est là, et on est tous unis. Ce que j'attends, c'est que réparation soit faite, et qu'on arrête de nous charger comme ça tous les week-ends. On a le droit de manifester, c'est un droit français, on a le droit. Toutes ces mutilations, c'est pas normal, ça fait un an que je lutte pacifiquement. Ça fait un an que je suis dans une manifestation pacifiquement. C'était un guet-apens de façon à Paris. On ne lâchera rien. Et ceux qui m'ont fait ça, le perron. Je suis costaud, je tiens quand même. Je sais que j'aurai du mal par la suite. Mais voilà, on ne lâchera jamais. Les Gilets jaunes sont là, ils resteront là.
Voilà, en rappelant qu'un juge d'instruction a été saisi dans cette affaire Manuel. Ce matin, 4 gilets jaunes, dont un policier en retraite, ont été condamnés à des peines de prison avec sursis pour avoir incendié 2 radars. Et maintenant, rendez-vous le 5 décembre. Ce sera sans aucun doute le temps fort de cet automne social. Pas un jour d'ailleurs où de nouvelles organisations dans de nouveaux secteurs n'appellent à rejoindre dans la grève les syndicats de la SNCF et de la RATP. Grève destinée à protester contre la réforme des retraites. C'est au tour aujourd'hui du PS d'appeler ses sympathisants à manifester ce 5 décembre. Fatima Yadani, élue du 13e arrondissement de Paris et membre du Conseil national du PS. Elle est au téléphone de Cécilia Arbona.
C'est essentiel pour les socialistes d'être présents aux côtés des Françaises et des Français quand il y a une crise sociale dans le pays. Je crois que c'est la réforme des retraites, c'est la situation d'hôpital, c'est les services publics qu'on est en train de brader, aéroport de Paris, la Française des Jeux. Je crois que ce gouvernement actuel a fait des mécontents dans toutes les sphères professionnelles. Nous avons toujours été au cœur de ces combats et c'est la raison pour laquelle nous serons tous présents. Je crois que les Françaises et les Français en ont marre qu'on les malmène et qu'on les maltraite, notamment un système de retraite qui est en train de partir en lambeaux. Puis aussi, la non-prise en compte d'un certain nombre de choses que nous, on a beaucoup défendues. Le compte de pénibilité du travail, qui reconnaissent les carrières longues, la solidarité par la répartition. Et ça, pour l'instant, c'est tout ce qui est flou dans ce système de retraite qui est en train d'être fixé par le gouvernement. On entend gronder les Français, à juste titre d'ailleurs.
En bref, à l'étranger, en Irak, encore un manifestant tué dans un affrontement avec les forces de l'ordre. Des dizaines d'autres ont été blessés à Bagdad et dans tout le pays où la contestation contre le régime ne faiblit pas depuis le 1er octobre. Ce sont plus de 340 morts qui ont été officiellement recensés. Le vice-président américain Mike Pence, en visite pour la première fois en Irak, visite auprès des Marines, annonce qu'il ne rencontrera aucun officiel irakien, mais qu'il rencontrera les Kurdes. En Syrie, 9 morts dans l'explosion d'une voiture piégée à Talabiyad, au nord du pays, dans une zone sous contrôle turc. Pour la Turquie, c'est l'œuvre des combattants kurdes, lesquels accusent au contraire une milice pro-turque. En France, comment détecter des citoyens radicalisés? Comment éviter de se faire manipuler? Quand on est un élu de terrain, pas toujours facile de faire la part des choses et de trier le bon grain de livret parmi les associations ou les initiatives qu'on voudrait aider. D'où les séances de formation organisées par l'État à l'intention des élus locaux, comme aujourd'hui dans l'Aude, à Trèbes, commune qui n'a pas été choisie au hasard, bien entendu. C'est à Trèbes, en mars 2018, qu'un jeune djihadiste avait tué au supermarché 3 personnes, dont le lieutenant-colonel Beltrame, qui avait pris la place d'une otage. Ce sont donc des stagiaires particulièrement motivés qui sont venus chercher les bons conseils de professeurs chevronnés, députés ou anciens ministres, Alain Gastal.
Dans la salle, une quarantaine d'élus, conseillers départementaux, maires, adjoints au maire, tous avides d'informations sur le phénomène de radicalisation qui a fait une éruption violente dans leur vie il y a un an et demi, mais devant lequel la plupart se sentent encore démunis. Marc Rofez est le maire de Ville-d'Hubert, la commune de Jean Mazières, une des victimes de l'attentat de Trèbes.
C'est des moments difficiles, on ne sait pas trop ce qu'il y a à faire en amont. Alors aujourd'hui, sur cette formation, on apprend quand même les personnes à contacter, notamment quand on voit des personnes qui peuvent partir sur une radicalisation. Mais c'est surtout de l'observation qu'on doit faire. Après, on n'a pas les pouvoirs de police ou quoi que ce soit sur les communes pour engager des procédures.
Le message semble être passé sur la nécessité de signaler tous les cas de radicalisation. Plus compliqué, la gestion d'un agent municipal qui aurait pris ce chemin-là, Sébastien Pietrasenta, ancien député et formateur.
Un agent municipal, on ne peut pas l'écarter comme ça. Être radicalisé aujourd'hui n'est pas répréhensible pénalement. Et donc il faut évidemment parfois trouver des artifices, éviter qu'il soit en contact avec du public sensible comme les jeunes ou les enfants. Mais surtout, on a insisté sur la relation qui doit se faire entre les élus et l'État sur ces sujets particulièrement délicats.
Trèves, Alain Gastal, France Inter.
On savait les océans pollués par le plastique, on savait moins que les fleuves étaient aussi concernés, qu'ils sont même en grande partie la source des pollutions marines, eux-mêmes étant remplis de plastique. Les observations des scientifiques de la mission Tara, la fameuse goélette Tara, rentrée ce matin de 6 mois d'inspection sur les fleuves d'Europe, ces observations sont éloquentes. Quel que soit l'endroit du vieux continent, 100% des prélèvements d'eau contiennent des microplastiques, minuscules fragments plus petits qu'un grain de riz et qui constituent à 90% les milliers de milliards de morceaux flottant à la surface des océans. Sophie Becherel, reste maintenant à analyser tout ça et agir au quotidien.
La Tamise, le Rhin, le Tibre, la Garonne, c'est la première fois que les scientifiques s'intéressent au plastique dans les fleuves. Et les premières observations n'incitent pas à l'optimisme. Le plastique est partout, fractionné en minuscules morceaux. Au sein de la fondation Tara Océan, scientifiques et marins tirent la même conclusion. Il faut tarir la source. Cela commence par des gestes citoyens, estime le capitaine du navire, Nicolas Bain.
Il faut qu'on change notre façon de consommer et du coup diminuer cette fichue poubelle jaune en fait. Quand on se demande qu'est-ce que je peux faire moi chez moi, et ben c'est ça en fait. Le recyclage est une chose et le tri aussi, mais diminuer cette poubelle jaune, si on fait ça, c'est qu'on a compris beaucoup de choses.
Il revient aussi aux politiques d'agir, selon la fondation Tara Océan. C'est pourquoi elle soutient la consigne des bouteilles plastiques dans la future loi sur l'économie circulaire. Henri Costa-Bourgeois a la tâche de transmettre la connaissance scientifique aux parlementaires notamment.
La consigne, c'est un système qui a été mis en place dans plus de 40 pays et régions du monde, avec succès systématiquement. 90% des emballages consignés ont été récupérés, parfois bien plus dans certains pays. Et donc c'est une mesure éprouvée et ce serait fou de se passer de cette mesure-là.
Rien n'est encore acquis. Mardi, Emmanuel Macron promettait aux maires qui y sont très hostiles que la consigne, pourtant encore en négociation, ne leur serait pas imposée.
Sophie Becherel, en rappelant que le déchet le plus facile à détruire, bien sûr, est celui qu'on ne produit pas. À réentendre sur franceinter.fr, l'invité du journal de 13h, l'une des biologistes de cette mission, Tara. En sport, en Ligue 1 de football, le match Lyon-Nice interrompu par des fumigènes. Tout à l'heure, les Lyonnais menaient 2-0. En Coupe d'Europe de rugby, Toulouse a la peine, mais qui l'emporte face aux Irlandais de Connacht, 32-17, avec un point de bonus, les Toulousains en tête de leur groupe. C'est la défaite en revanche pour Lyon, battue sur son terrain par Leinster, 13-6. En Ligue des champions de hand, Montpellier battu par Porto à Montpellier, 27-22. Dans la Coupe Davis de tennis, le Canada en finale, 2-1 pour les Canadiens qui ont battu les Russes en demi-finale. Ils affronteront demain l'Espagne de Nadal ou la Grande-Bretagne d'Andy Murray. Et puis peut-être le début d'une longue série à nouveau en ski alpin pour Michaela Schifrin. L'américaine triple tenante du globe de cristal en slalom a remporté en Finlande sa première victoire de la saison en Coupe du Monde. C'est le 61e succès de sa carrière. Allez, même dans une vie très connectée, on peut faire des pauses et débrancher son smartphone pour lire. Et c'est ce que vous avez fait cette semaine, Christine Siméon. Bonsoir.
Bonsoir Yves.
Sans déconnecter d'ailleurs tout à fait de ce qui vous intéresse, puisque le livre en question traite du numérique, Les oubliés du numérique, oubliés EES, un livre écrit par la chercheuse Isabelle Collet, qui ne se contente pas du constat habituel sur les femmes laissées pour compte.
Alors ce n'est pas la première fois que l'on dira ici que les femmes sont trop peu nombreuses dans les métiers du numérique, étrangement sous-représentées aux postes importants et dans le monde des développeurs, par exemple. En général, les femmes dans le numérique s'occupent de ressources humaines, de comptabilité et de marketing. Bref, je ne viens pas ici vous resservir une nouvelle étude qui va vérifier que cette année, ah oui, on a fait un tout petit progrès sur la question. Isabelle Collet explique très bien dans son livre « Les oubliés du numérique » pourquoi ce secteur s'est masculinisé dans les années 90 parce que il est devenu un enjeu stratégique pour le développement des pays occidentaux. Elle explique aussi qu'elle a repéré tout de même deux expériences dans le monde où l'on est arrivé à la parité, ou presque.
Voilà, question de méthode sans doute, ou bien faut-il parler d'un miracle ?
Non, ce n'est pas une question de miracle, de méthode un peu et de volonté surtout. L'université Carnegie Mellon en Pennsylvanie est passée dès le début des années 2000 de 7 à 40% d'étudiantes dans ses rangs en informatique. Pour y arriver, ils ont repensé le mode de recrutement, embauché plus d'enseignantes et d'assistantes pour plus de mixité dans le personnel. L'autre exemple se situe en Norvège et c'est une histoire de quota. Écoutez Isabelle Collet.
C'est-à-dire, ils ont recruté la promotion d'informaticiens et d'informaticiennes comme d'habitude, mais ils ont ouvert 30 places supplémentaires où ils n'ont pris que les filles qui venaient ensuite sur la liste d'attente. Donc mécaniquement, ils ont eu 30 filles de plus. Souvent, quand on parle de quotas, on a deux angoisses. La première angoisse, c'est de se dire « on va le baisser le niveau ». Bon, alors faut être pragmatique, en France, plus de filles que de garçons ont des mentions bien ou très bien au bac S. Vous mettez un quota, vous montez le niveau. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, si on dit aux femmes, on vous attend, vraiment, des places vous sont réservées, et derrière, il y a un métier, il y a une carrière, il y a un travail intéressant, on va les intéresser réellement. Et de fait, il y a des femmes et des filles qui viennent.
En Norvège, donc, l'université de Trondheim est passée à 40% de femmes parmi ses élèves en informatique dès le début des années 2000, et désormais, elle peut se passer des quotas.
Christine Siméon, Les oubliés du numérique aux éditions Le Passeur, par Isabelle Collet. C'est à retrouver bien sûr sur franceinter.fr. Le temps.
La météo à toutes jambes avec Bleuforêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et attention donc ce soir dans le sud-est, Jean-Michel Golinski.
Les Alpes-Maritimes et le Var sont en vigilance rouge pour fortes pluies, inondations et crues. Ils sont également en vigilance orange pour le phénomène de vagues submersion. D'autre part, le risque d'avalanche est élevé sur les Alpes-Maritimes. Et 5 autres départements du quart sud-est sont en vigilance orange crue. C'est le résultat du passage aujourd'hui de l'épisode méditerranéen sur le sud-est du pays. Si les pluies pluie s'estompe à l'ouest de la vallée du Rhône. Elles vont rester fortes sur la côte d'Azur jusqu'en milieu de nuit prochaine. Et demain, elles seront encore sensibles jusqu'en milieu de journée, avec toujours de la neige sur les Alpes frontalières, mais avec une évolution favorable à l'après-midi près de la Méditerranée, grâce au Mistral et à la Tramontane. Sur le reste du pays, comme aujourd'hui, l'ambiance sera souvent plus grise que bleue, passagèrement pluvieuse, mais c'est surtout en fin de journée par les côtes atlantiques que les pluies vont devenir plus marquées.